Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch. Bon, il n'y a pas trop de trucs japonais en ce moment. On est plutôt dans l'américanisme profond. Encore que, il y a un petit peu de franchouillarde, mine de rien, dans tout ça. Je suis Patrick Béja. On va vous parler de Eternals, évidemment, notre sujet principal que vous attendez tous avec impatience, le dernier film du MCU, qui est notre sujet de prédilection, le MCU j'entends, mais on va aussi peut-être faire un petit détour par Arcane, la série Netflix de basée sur le jeu vidéo League of Legends, et puis même un petit mot sur Dune. Je suis Patrick Béja, et vous vous demandez peut-être, Johan, dis-moi, bonjour Johan, comment ça va ?
Hello, bah ça va super bien.
Oula, tu t'es dit, il faut avoir de l'énergie là.
Alors, on vient juste de discuter. Tu disais que j'avais l'air en forme et tout, et je te disais bah oui, parce que j'ai bien dormi. Mais en fait non, j'ai compris pourquoi j'étais super en forme, et ça m'a donné encore plus la pêche. C'est parce que tout à l'heure, il y a le test d'Elden Ring, enfin le test réseau d'Elden Ring. Je vais jouer à Elden Ring aujourd'hui.
C'est pour ça. D'accord, je comprends évidemment, tout s'explique. Mais dis-moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont écouter ce programme pour cet épisode, qui vont se dire, mais attends, League of Legends, Dune, mais je pensais que c'était un podcast sur le MCU. Et moi, j'ai un peu envie de dire, bah, vous savez quoi, dans Arcane, la série, il y a des punchs. Et donc, exactement, ça veut dire que c'est tout à fait valable. Sur Dune, je crois que ça te justifie un petit peu moins, hein, quand même.
S'il y a au moins un punch, c'est éligible au podcast.
Bon, je pense que sur Dune, c'est vraiment parce que je viens de le voir, j'ai envie d'en dire un mot, ça compte même pas. Mais on va en dire un petit mot juste avant de parler de Eternals. Et puis on dira un mot et demi, on va dire, sur Arcane. Le sujet principal reste Eternal, évidemment. Donc on va faire juste un mot sur Dune. Un grand passage, notre passage principal sur Eternals. Et puis un petit bonus, on va dire, sur Arcane. Dune, en fait, je me disais, j'ai juste envie d'en parler pour dire que je suis vraiment un fan de Denis Villeneuve. J'ai adoré Arrival, qui était, je crois, son film précédent. Je crois pas qu'il y en a eu entre-temps. J'en ai pas vu beaucoup d'autres, mais Arrival, c'est vraiment le nouveau contact pour moi, qui est un film que j'adule, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et Dune est une... j'ai pas du tout de familiarité avec le livre, mais le film en lui-même, je l'ai trouvé hyper réussi. Évidemment, les visuels de Villeneuve, ils sont incroyables. Le rythme qu'il imprime à ses films sont excellents. Et du coup, il durait 2h30. J'aurais eu envie qu'il en dure 5. Et j'ai très, très hâte d'avoir les parties 2 et 3 qui arriveront... enfin, la 2, en tout cas, est signée, qui arrivera à un moment. Et la 3, je pense que ça sera... Ils termineront la trilogie aussi. Donc... très très content de Dune, donc je voulais juste le dire.
Ouais, moi j'ai adoré aussi. J'avais vu le film précédent il y a pas très longtemps, il y a genre un
tu
an,
veux dire et celui
j'avais
de
déjà
David Lynch,
énormément.
A...
Ouais.
D'accord.
Je m'attendais vraiment à, tu sais, je l'avais regardé comme on regarde un classique où on se dit bah ça serait intéressant de le voir, mais je m'attends quand même à m'ennuyer parce que bon, le film, c'est pas toujours évident quand on n'a pas le bon état d'esprit. Et en fait, j'avais déjà super adoré en fait le précédent, et bah j'ai adoré celui-là. Ça m'a donné envie de lire le bouquin, mais je sais pas lire, alors c'est difficile pour moi de lire des romans, mais ouais, j'ai adoré. J'adore Villeneuve. Son précédent c'était Blade Runner,
après, ah oui, Arrival. C'est vrai, que j'avais bien aimé aussi. Je sais qu'il n'a pas été super bien reçu par certains, mais moi, je l'ai trouvé quand même toujours dans le style Villeneuve. J'ai l'impression que si on aime son style, on aimera tout ce qu'il fait, et si on n'aime pas, bah, on n'aimera rien. Donc,
il faut quand même accorder quelque chose, hein, qu'on aime ou pas, c'est que pour ce type de budget, ça reste des ovnis quoi, dans le paysage des blockbusters. Quoi. C'est vraiment pas dans les canons... super attendu des films de masse, donc c'est super cool d'avoir le droit à ce genre de film avec ce niveau de budget quand même.
C'est tellement focalisé sur l'ambiance et les visuels, il n'y a pas du tout, enfin c'est pas qu'il n'y a pas d'action, il y a un petit peu d'action, même parfois ça représente une bonne part du truc, mais essentiellement c'est quand même il pose une ambiance quoi, et c'est vrai que c'est pas tellement habituel sur ce genre de film, ça rappelle certains de l'époque quoi, des classiques de l'époque. Et bon, je sais pas comment ça se passe au box-office pour ces films-là. J'espère que ça se passe pas trop mal. Ils continuent à en faire, donc j'imagine que ça se vend bien.
Ça se passe pas mal.
Ouais. Donc voilà. Bon, c'était notre petit mot sur Dune. Et maintenant, passons à notre morceau principal, donc Eternals, le dernier film du MCU. Je sais même pas par quel morceau le prendre. J'ai envie de parler. Bon, évidemment, on va faire une partie sans spoiler d'abord. On spoilera un petit peu après. Mais là, sur la partie sans spoiler, j'ai presque envie de dire, de commencer par les impressions générales des critiques. Le film est, je crois encore sur Rotten Tomatoes, le pire film Marvel, enfin le film le moins bien noté de Marvel, du MCU, et de très très loin, il est à, je vérifie en même temps, il est à 50 je crois, quelque chose comme ça, 50%. Même pas, 47 au Tomato.
Ouais, j'allais dire, il a continué à tomber ouais, depuis quelques jours.
Ce qui est assez incroyable, parce que les films du MCU qui sont mal notés, ils sont généralement à 70, on va dire. Et les pires films du MCU jusqu'à maintenant, ils étaient à 70 à peu près, quelque chose comme ça. Et donc celui-là, il est carrément 20 points en dessous. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ce film. Les gens disent... C'est le pire, c'est le premier film du MCU objectivement mauvais. Et du coup, bon, j'ai plein de choses à dire là-dessus, mais j'ai envie d'avoir ton avis juste sur cet aspect du truc. Même pas ton avis sur le film, mais sur ça, quoi.
Déjà, effectivement, très vite, hein, on a eu ces retours-là très, très mitigés. Donc, juste pour rappeler Rotten Tomato, faut expliquer comment ça marche. Le score de Rotten Tomato, c'est assez binaire. C'est si on a globalement pas aimé ou globalement aimé. C'est-à-dire ça représente pas une note. C'est-à-dire que si quelqu'un note le film 100%, ça n'impacte pas ce chiffre. C'est-à-dire que tu aies aimé 100% ou 51%, ça compte
comme un plus.
Score, voilà. Ouais. Voilà. Donc 47%, ça veut dire que plus de la moitié des gens ont plutôt pas aimé le film, quoi. Et effectivement, moi, c'est très intriguant. Alors, c'est d'autant plus intriguant que j'ai vu le film et que, voilà, ça m'a quand même interpellé. Et j'ai, comme toi, j'ai essayé de chercher, on va dire, quelle raison, on va dire. Parce que, alors, évidemment, n'importe qui a le droit de détester le film. C'est pas vraiment la question. C'est plus cette sensation qu'il y a un truc systémique qui se fait autour de ça, qui fait que les gens, en tout cas que les critiques, ont particulièrement pas aimé ce film-là plutôt que d'autres hein, que nous on pourrait estimer pire. Je pense qu'un peu comme toi, j'ai essayé de chercher un petit peu, essayer de comprendre, on va dire, qu'est-ce qui avait pu se passer. Donc, est-ce que tu as trouvé des choses? Est-ce que tu as des hypothèses?
Je crois que d'abord il faut dire on en parlera après de notre avis, mais je t'avoue que je sais pas très bien. On a évoqué sur Twitter l'idée que c'est un film qui est réalisé par une femme et que tu me disais il est prouvé que les films réalisés par des femmes sont en moyenne hein, bien sûr moins bien notés que les films réalisés par des hommes. Ça me paraît quand même compliqué d'expliquer un tel une telle dégringolade rien que par ça. Peut-être que ça a joué un petit peu, mais je peux imaginer, tu vois, 2, 3 points, 5 points, mais pas 20. Et je note aussi que sur Metacritic, le film est à 52. Alors que, tu vois, sur bon, donc on est à 5 points de différence par rapport à Rotten Tomatoes. Sur Rotten Tomatoes, je crois que pour moi, le film le moins bon du MCU après, enfin, de mon avis, c'est plutôt Iron Man 2, je pense, qui est à mon sens très très mauvais, peut-être même Thor 2. Et le truc, c'est que sur Metacritic, il est à 57 et Thor 2 est à 48. Donc, c'est vrai que Rotten Tomatoes, pour lesquels ces deux films, Iron Man 2 et Thor 2, sont à 70 environ, bah, ça a l'air de jouer ce système de notation dont tu parles. Ça a l'air de jouer vraiment, c'est tellement binaire que ça, bah, ça oui, ça a accentué la différence. Et en réalité, si on prend les notes des critiques, bah, on est à peu près un petit peu plus dans le même, dans la même catégorie. On est autour de 50, on va dire, pour tous ces films-là qui sont considérés peut-être comme mauvais pour le MCU. Mais ceci dit, je sais pas si toi, tu as une autre chose à ajouter là-dessus avant de partir sur
ouais,
nos avis.
Ouais, alors moi, du coup, juste pour balayer un peu les hypothèses que j'avais explorées, donc évidemment, on a parlé de cette histoire, on va dire, de notation femme-homme. Alors, je pense que c'est un des éléments qui on va dire, qui accentue le phénomène, mais ça peut pas expliquer voilà une telle
telle différence, quoi. Ouais.
Il y a dans les choses que j'avais aussi, c'est que il y a le fait que ça soit une réalisatrice oscarisée, il y avait peut-être une attente implicite sur le film. De gens qui se sont rendus compte que, et je pense que c'est surtout vrai pour les critiques cinéma, hein, qui ont une culture cinéma qui n'est pas celle des gens normaux, qui forcément a dû prendre un coup et jouer, on va dire, et teinter une déception ou ce regard critique-là.
C'est possible.
Parce que si on regarde les scores d'audience, je crois qu'ils sont corrects, quoi, sans être incroyables. J'ai l'impression que globalement les gens aiment plutôt le film, donc bon.
Ouais, ça joue peut-être, effectivement. Je vais juste vérifier, pour qu'on aime bien comprendre hein, les choses, mais je vais juste vérifier sur Metacritic le score des users, des gens normaux. On est à 6,6, donc bon, c'est quand même pas stellaire. Mais sur Rotten Tomatoes, on est à 80% de score de l'audience par rapport au score des critiques. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a un film qui est plus apprécié de l'audience que des critiques, mais il y a une vraie différence. Sur Iron Man 2, par exemple, sur le Rotten Tomatoes, on est à 72 et 71, donc la différence n'est pas du tout aussi importante. Et si on prend Thor 2, The Dark World, ben on est également un petit peu moins égal, mais on est à 66 et 75 sur Rotten Tomatoes. Donc c'est vraiment l'une des premières fois qu'on a une différence aussi importante. Bref, cette chose une fois dite, je pense que c'était intéressant de le dire parce que moi j'ai eu les échos des critiques avant d'aller voir le film et du coup je m'attendais à quelque chose d'objectivement mauvais, quoi, avec un score aussi bas. Et au final, bah, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Et je crois qu'il faut repréciser, j'espère que ça a été clair dans nos discussions jusqu'à maintenant, mais on n'est pas du tout le genre de fan qui va aimer à tout prix toutes les productions. Sur les séries, on en a parlé à plusieurs reprises ici, bah, y en a qu'on n'a pas vraiment aimé, des épisodes qu'on a trouvé franchement mauvais. Et c'est un petit peu la même chose sur les films. J'évoque Iron Man 2 et Thor 2 parce que c'est les plus grands exemples, mais pour moi, ils sont vraiment, c'est juste des films assez mauvais, quoi. Et il y en aurait d'autres qu'on pourrait évoquer. Après, ça dépend plus des préférences, mais bon, on n'est pas du genre à ne jamais trouver un truc Marvel mauvais parce que c'est un truc Marvel, quoi. Je crois que tu t'inscris dans cette tendance aussi, quoi.
Et comme toi, j'y suis allé, enfin, limite en traînant des pieds. Hein. Je m'attendais vraiment à quelque chose. En plus, la durée me faisait peur parce que c'est un film qui est long, 2h40. Et je me disais, voilà, si c'est 2h40 de 47% tomato, qu'est-ce que je vais faire?
Alors dis-moi, sans spoiler, là, on est toujours dans la partie sans spoiler, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, du coup?
Moi, j'ai clairement aimé. Un franc, j'aime bien, quoi. Donc, je suis sorti déjà très surpris par ce que j'avais vu, parce que je m'attendais vraiment à moins que ça, quoi. Et je me suis sorti vraiment super satisfait, en fait. Je pense que c'est un film qui est très compliqué. Je pense que c'était pas un cadeau pour Chloé Zhao de devoir gérer ça, mais je trouve que pour ce qu'on lui a demandé de faire, elle a fait le truc vraiment avec brio. Ouais, j'étais vraiment ravi d'avoir évité. Ça aurait pu être une catastrophe, hein, parce que vraiment, si le sujet, autant le sujet que, en fait, c'est vraiment un film qui est une exposition. C'est vraiment exposition le film quasiment. Donc il y a beaucoup de choses à présenter. Ça prend le temps de le présenter. C'est très long. Je pense que ça aurait pu être vraiment mauvais, et je pense que Chloé Zhao s'en est sortie vraiment à merveille pour le coup, pour faire ce qu'on lui a demandé de faire, quoi.
Du coup, tu le trouves bon, le film ?
Alors, c'est...
J'irai pas jusque-là.
Je trouve qu'il est très bien fait, mais je trouve que c'est le sujet qui est, qui est pas forcément intéressant, enfin... J'ai un peu du mal à m'exprimer là-dessus, mais si, globalement, je dirais que c'est quand même un film, un bon film. Voilà. Il est du bon côté du spectre bon-mauvais.
D'accord.
Donc, je dirais que c'est un bon film.
Pour ma part, et encore une fois, on spoile pas du tout, hein, j'imagine que la plupart des auditeurs l'auront vu maintenant à ce stade en écoutant l'épisode, mais d'ailleurs, si vous écoutez les émissions sans avoir forcément vu les trucs dont on parle, envoyez-moi un petit message, je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui écoutent et qui se font spoiler parce que ça leur importe moins ou que ça les dérange pas. Dites-moi sur Twitter ou dans le Discord, faites-moi un petit message. Mais oui, donc sans spoiler du tout, effectivement, je trouve qu'il a beaucoup de défauts, en gros. C'est difficile de dire il est bon ou il est mauvais, simplement, parce qu'il y a des éléments que j'ai vraiment bien aimés, et puis il y a des éléments qui pêchent clairement, et donc c'est assez... c'est peut-être pour ça qu'on a ces scores si différents. C'est assez difficile de dire de manière binaire il est bien ou pas. Pour moi, il y a une partie des éléments, je ne saurais pas quantifier, mais une partie des éléments qui sont vraiment intéressants et bien foutus dans le contexte du MCU, et une partie des éléments qui laissent à désirer clairement. Structurellement, il y a des soucis dans le film qui sont complètement, comment dire, évidents, qui sont obvious, et je pense que c'est pour ça que certains critiques ont été durs avec le film, parce que il y a des problèmes structurels qui sont, je vais pas dire impardonnables, mais au niveau cinématographique, pas la cinématographie, le fait de filmer, mais au niveau de l'art du cinéma, tu te dis non mais ça c'est pas possible, quoi. Là il y a dans l'écriture des trous béants, des problèmes béants dans l'écriture, il y a dans la structure du truc, c'est surtout ça, quoi. La structure et l'écriture, il y a des défauts qui sont difficilement excusables. Et donc, si on y va pour voir genre un bon film au sens noble de l'art, clairement, on va pas être satisfait. Encore plus, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais ça, c'est tout le MCU ». Non, il y a des films qui sont, malgré les défauts, qui restent des films quand même, qui font des choses super intéressantes et qui sont de bons films tout court. Là, il y a des trucs qui sont simplement... par leur présence, qui font que le film bascule du côté « bah non, ça, c'est pas possible, quoi ». Mais donc, si on n'y va pas pour ça, si on c'est pas le genre de truc sur lequel on s'arrête et qu'on ne peut pas accepter, eh ben, il y a quand même des choses à prendre, il y a des bons moments à passer, et puis des choses qu'on n'a pas vraiment vues dans le MCU au niveau même de la structure du film et de ce qu'il explore, et qui donc peuvent apporter quand même un certain plaisir geek-cinématographique qui, moi, m'a quand même parlé. Donc, je dirais que c'est pas, clairement pas, le meilleur film du MCU, c'est pas parmi les meilleurs films du MCU, mais il est, à mon sens, par exemple, largement au-dessus d'un film comme Iron Man 2 ou d'un film comme Thor 2, qui sont juste dans lesquels il y a très très peu à sauver, voire rien à sauver, quoi. Donc,
ouais, bah, je suis complètement d'accord là avec, avec comment tu décris, on va dire, les problèmes du film. Je voulais juste rajouter que à travers ces gros problèmes, hein, c'est vrai que c'est des gros problèmes de narration et d'agencement, on va dire, de tout ça. Il y a quand même une, je trouve, hein, une maestria dans la présentation des personnages. Et dans, enfin, moi, j'ai vraiment fini par éprouver des choses pour ces personnages. Et je trouve un cast de 11 personnages avec des, quand même des concepts, on va dire, un peu de dieu, des concepts cosmiques, etc. Et je trouve que réussir ces personnages-là, c'était vraiment pas chose aisée. Et je trouve que ça, c'est vraiment le point fort en fait de ce film, c'est justement ces personnages et leurs relations. Et même si là-dedans il y a aussi des problèmes, globalement je trouve que c'est très réussi et c'est vraiment ce que je retiens du film.
Bah, je crois qu'en conclusion, je vais aller dans ton sens, en conclusion de la partie sans spoiler, ce que je dirais, c'est que étrangement, on pourrait penser que 2h30, 2h40, c'est trop long, mais moi je pense qu'il aurait été bien meilleur en faisant 5 heures. Tu vois, c'est ce genre d'esprit. Et pour aller au bout du truc, il aurait fallu que ça soit une série de 6 épisodes, on va dire, sur Disney+, avec le même budget. Et là, ça aurait été vraiment une grosse réussite. L'un des problèmes essentiels du film, c'est qu'il est trop court. Et à 2h40, c'est, c'est amusant d'entendre ça, mais je crois vraiment que c'est le cas, quoi. Bon, bah écoute, je pense qu'on peut passer à la partie méga spoiler du coup. Donc maintenant, méga spoiler, 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 spoiler. Si vous voulez pas écouter, on vous laisse le temps une seconde, on spoil, et voilà. Je sais même pas par où approcher la partie spoiler. Prenons le truc par ce qu'il apporte pour le MCU, et vraiment, ouais. Le film, c'est, comme on le dit souvent, chaque film du MCU ou chaque série du MCU a, je veux dire série de films, a un style et un propos qui est différent. Le plus facile à classifier, c'est Captain America, c'est les films de guerre, Ant-Man, c'est les films de casse, Iron Man, c'est, je sais pas, les films d'Iron Man. Spider-Man, c'est les films d'ado. Là, on est à la fois pour le style du film et le but du film, c'est le panthéon du MCU. C'est vraiment juste le panthéon, le panthéon par rapport à l'histoire cosmique et également, ce qui traite un petit peu de la même chose, donc l'origine de l'univers et l'origine de la Terre finalement et de l'humanité. Et c'est donc effectivement un truc compliqué à faire parce que je vais peut-être être un petit peu brouillon, mais je continue. Dans la structure du film, le truc, c'est qu'on présente donc le panthéon du MCU avec les Éternels. Il y en a 10, c'est bien trop pour être présenté et pour s'y attacher à tous en 2h ou 2h30. Et en plus, ils se mettent une difficulté supplémentaire avec ce film, c'est qu'ils racontent la base, ils établissent les personnages et leur arrivée et leurs relations. Et en plus de ça, ils font en même temps et en deuxième partie, mais entrecoupé, la séparation et les retrouvailles des personnages. Ce qui fait que aux retrouvailles, il faut qu'on ait déjà le sentiment d'attachement par rapport aux personnages, aux 10 personnages, pour que quand ils se retrouvent et qu'ils sont heureux ou pas heureux ou émus ou tristes ou ce que c'est de constater la nouvelle situation, il faut qu'on ait eu le temps de s'y attacher. Et c'est pas qu'on n'y arrive pas du tout, mais c'est quand même un peu compliqué vu tout ce qu'il est important de mettre dans le film, tout ce que Chloé Zhao met dans le film et tout ce que le scénario est censé vous faire rentrer dans la tête. Je parle même pas des Celestials, parce que ça, je pense que ça passe plus ou moins, on comprend, ça passe bien, mais toute l'histoire avec les différentes époques qui est entrecoupé de l'histoire au présent, et puis ils sont séparés, et puis on comprend qu'ils sont séparés, et ils reviennent, et ils se retrouvent, ben, comme tu le disais un petit peu dans la partie sans spoiler, vu tout ce qu'il y a à faire, elle s'en sort vraiment pas mal, parce que ça passe quand même un peu, pas assez, pas pour assez de personnages, mais au final, moi, j'ai quand même ressenti des trucs pour les personnages, et c'est pour ça que je dis, il aurait fallu 5 heures, 6 heures, une série, parce que avec plus de temps, on aurait réussi à mieux définir les personnages et à plus s'y attacher. Et c'est ça le problème vraiment principal dans cette structure, et on pourra en parler un petit peu plus, mais je vais m'arrêter là. Dans cette structure, c'est trop compliqué, quoi, trop de choses.
Ouais, ouais, complètement.
Pardon, je t'ai réveillé, Johan, tu t'étais...
J'étais dans mes pensées, j'étais dans les réflexions. Alors moi effectivement, alors il y a cette idée d'entrecouper tout, hein, c'est-à-dire qu'on a ça commence par du flashback, puis on est dans le présent, et puis là, ça, à partir de là, ça va alterner entre flashbacks dont les souvenirs sont de plus en plus proches, on va dire de notre présent, et du coup effectivement, alors ce que ça permet, c'est que ça permet de faire des twists sur les motivations des personnages, et ça, je trouve que ça marchait assez bien, même si bon, on pouvait se douter que Icarus voilà, allait être
Icarus.
À un moment donné Icarus, ouais. allait être un antagoniste à un moment ou un autre, mais je trouve que cette façon de raconter permet de faire ces twists, et je trouve que ça a bien marché. Comme j'étais un peu dans le film, je l'ai vu venir un petit peu, mais pas tant que ça, quoi. Du coup, je trouve que c'est assez malin d'avoir fait comme ça, mais effectivement, le gros problème de faire comme ça, c'est que tu sais pas, enfin, c'est difficile d'avoir la sensation que ces gens-là se connaissent depuis 5000 ans. Mmh. On a du mal à les voir vraiment comme une famille, sauf certains personnages entre eux. Du coup, voilà, je comprends complètement qu'on n'accroche pas à ça, mais je pense que c'était quand même la bonne solution pour mener ce film. Le gros problème, c'est effectivement tout ça pour ça, en fait. C'est-à-dire que on a les Célestials qui envoient des robots, qui pensent qu'ils sont pas des robots. Enfin, tu vois, tu te demandes, mais vraiment, pourquoi ils ont pas toutes les infos? Ça aurait peut-être mieux marché pour les plans des Célestials. Enfin, il y a beaucoup de complexité parfois pour un film qui est déjà relativement complexe. On rajoute, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des teasings pour d'autres choses en plus de tout ça. Donc, on a Dane Whitman, le Black Knight, qui est là-dedans et qui a pas énormément de temps d'écran, mais qui est là, et c'est encore de l'information en plus. Enfin,
c'est-à-dire que pour lui, spécifiquement, tu dis il aurait pu pas être dans le film, et avec la deuxième séquence post-crédit, ou la première, je sais plus, tu dis, ah oui, ok, bon, c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Alors, tu comprends qu'il faut un attachement, mais ouais, c'est tout à fait vrai, ouais. Tu es parti dans tes pensées, dis-moi, je ne sais pas. Tu penses à Elden Ring, c'est ça? C'est Elden Ring qui t'obsède?
Non, mais c'est vrai que c'est un film qui est quand même compliqué à prendre comme ça d'un seul bloc. Je ne sais pas vers où on pourrait aller maintenant.
Ce que je dirais, moi je pense que l'essentiel, il y a plusieurs choses à voir. C'est d'une part les Célestials et tout l'aspect lore qu'introduit le film, avec les Éternels, les Déviants, etc. Et puis d'autre part les personnages. Moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des personnages justement, parce que je trouve que même si on a l'impression qu'ils sont pas très bien définis, et à vrai dire, c'est vrai, ils sont pas très bien définis, et on en a trop peu, je vais finir par me lasser de le répéter, mais on en a trop peu dans le film, eh ben, il y a quand même une impression, c'est pas qu'on les connaît, c'est pas qu'on s'y attache, mais il y a une impression qui est claire pour chacun d'entre eux. Si on parle de Téna, par exemple, elle dit rien. Malheureusement, Angelina Jolie, qui est sculpturale, elle dit pas grand-chose et elle a presque pas de temps d'écran. Mais pourtant, il en ressort une impression justement d'Athéna qui est majestueuse, qui est réussie. Tu vois l'impression que tu as du personnage, elle est forte. Si tu prends Gilgamesh, mais personne l'oublie quoi. Gilgamesh avec ses gros coups de poing magiques là, il est lui aussi hyper mémorable. Et alors que c'est un tout petit truc dans le film, Makari pareil avec son. D'ailleurs, l'actrice est malentendante ou sourde, je sais pas.
Elle est sourde, ouais.
Mais, ouais, c'est ça. Donc, mais tu vois, la manière dont il réalise la vitesse dans le film, c'était casse-gueule, hein, parce que ça a été fait des dizaines de fois dans plein de films et de séries de super-héros, et ils auraient tout à fait pu se planter. Là, je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi ça. On a, je sais pas, Kingo, qui est dans ses films de Bollywood, qui est marrant. Fastos, on comprend, tu vois. Même Druig, qui est hyper... si tu veux, là, j'ai la photo des 10 Eternals devant moi sur mon navigateur. Et chacun, ils sont très clairement identifiés. Peut-être que j'arrive pas à me souvenir des personnages quand j'ai pas leur tête devant moi. Mais quand je les vois, ils m'évoquent tout de suite quelque chose. Même si j'ai pas l'impression que ça s'est passé. Et bien sûr, je parle pas de Icaris et Cersei. D'ailleurs, Gemma Chan, qu'est-ce qu'elle... on parlait de sculptural. Ils sont trois ou quatre en particulier. Bon, c'est des super beaux acteurs de Hollywood, donc ça aide. Mais l'impression d'avoir des dieux, mais c'est hyper bien. D'une part, dans la présentation super héroïque avec on débarque de notre vaisseau spatial au milieu de la Mésopotamie et tu vois, c'est d'un autre monde. Mais en plus, leur physique et la manière dont ils sont filmés, ouais, là, tu comprends que t'as l'impression d'être en face de dieux olympiens, tu vois. Et cette équivalence, justement... Enfin, alors, on parle encore de Icaris. Je le trouve très bien. La manière dont il représente le vol également, bah, c'est pas facile non plus. Et je trouve qu'ils y arrivent bien. Ils parlent d'ailleurs de Superman et Batman. Je sais pas pourquoi ils font deux références aux comics DC. C'est bizarre, quoi. Je me demande s'ils ont, pourquoi. Est-ce qu'il y a pas un truc derrière? Est-ce que, enfin, c'est vraiment bizarre. Ouais. On t'en met une, ça passe, mais deux, c'est un peu étrange.
Icaris, c'est clairement, c'est clairement Superman. Hein.
On est d'accord.
Il a les lasers des yeux, il est super fort. Même l'acteur, je trouve qu'il a pourrait facilement faire un Superman. Et
mais le fait qu'ils y fassent référence dans le film deux fois, pas une fois, mais deux fois, tu vois, il y a Batman et Superman, c'est... Enfin, bon.
Ouais, mais... je sais pas, je pense que c'est juste pour la blague, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de... Fin...
Ouais, mais quand t'es dans une situation où tu as ton MCU et le DCU qui sont concurrents et qui, je veux dire, c'est un truc qui a été dans les scripts, qui a été étudié, regardé par tous les exécutifs de Disney au monde, tu vois, c'est le genre de truc que tu fais pas juste pour la blague sans que ça soit vérifié par tout le monde. Et si ça reste, ça veut dire quelque chose aussi. Alors, la chose que ça veut dire, ça peut être simplement, ouais, ok, c'est bien pour la blague, mais tout le monde l'a vu. Kevin Feige a dû mettre sa signature à côté du mot dans le script, tu vois, pour assurer que c'était ok.
Ouais.
Mais bon, bref, on pourrait en reparler, mais il y a tout cet aspect qui est intéressant, enfin qui passe quand même. Il y a aussi le fait que, bah, mine de rien, la mythologie, le panthéon, c'est quand même un truc que moi, ça me plaît beaucoup. Je suis pas un grand spécialiste de la mythologie grecque, mais il y a quand même des aspects qui sont hyper intéressants, je trouve. La manière dont il transcrivent la dramaturgie de l'éternel, parce que la grande caractéristique du panthéon, qu'il soit grec ou latin, mais essentiellement grec, c'est que justement les dieux, ils sont éternels, ils peuvent pas mourir, et donc la vie leur importe pas du tout. Tu vois, on a souvent, c'est des jouets pour eux, ils jouent avec les humains. Et là, bon, c'est pas exactement ça, mais il y a quand même un enjeu dramatique au fait d'être éternel et on est éternel mais on l'est pas vraiment parce qu'on est reseté tout le temps et tu vois c'est intégré au lore du MCU. Je trouve que c'est pas trop mal foutu. Je trouve que c'est des dignes représentants d'une sorte de panthéon du MCU qui s'intègre quand même à une pseudo-réalité parce que c'est des robots qui n'évoluent pas et c'est leur tragédie de pas avoir d'évolution et donc ils sont différents des humains. Mais ils acquièrent quand même des sentiments humains de par le temps qu'ils ont passé. Et c'est pour ça qu'il faut les resetter. Enfin, bref, je trouve que ça fonctionne et ça induit une dramaturgie qui marche avec les paramètres de base qu'il y avait pour ce groupe et ce film. Donc, au niveau des personnages, moi, j'ai été assez satisfait par ce que le film a fait. On pourra reparler des Célestials et des Déviants après, mais, mais je t'écoute.
Pour les personnages, comme j'en parlais dans la partie sans spoiler, je pense que c'est la grande réussite, même s'il y a quelques problèmes, hein, je trouve, de motivation sur certains personnages. Ce qui est notable, c'est que chacun d'entre eux ont un positionnement vis-à-vis de leur mission, vis-à-vis des êtres humains, assez différent. Dès qu'on donne un nom ou qu'on visualise l'un d'entre eux, on a tout de suite en tête comment ils se positionnent vis-à-vis de la mission, parce que c'est un peu le cœur des choses, quoi. Donc on a celle qui est au courant de tout et qui a positionné les gens pour qu'ils s'attachent aux humains, pour qu'ils changent d'avis, parce qu'elle avait c'est comme ça que je le vois, hein, qu'elle voulait justement au bout d'un moment renverser les choses. On a Icaris qui lui est droit dans la mission et il n'y a que la mission qui compte, et voilà, on a comme ça chaque personnage qui ont une position limite un peu caricaturale sur le sujet. Alors il y a quelques loupés, moi je pense notamment
Fastos.
Kingo, c'est ça.
Ah,
tu penses à Fastos.
Bon, Fastos, il veut pas y aller parce qu'il veut protéger sa famille et du coup ils vont tous mourir parce qu'il veut pas. Bon, c'est un peu ridicule. Mais ouais, Kingo aussi, tu l'as pas adoré?
Finalement, ce personnage-là, il est dans Bollywood depuis des générations. il y a cette scène que j'ai adorée où il montre différents posters de lui-même et à chaque fois
avec une moustache.
Voilà, parce qu'il joue son propre fils au fur et à mesure, il se fait sa propre descendance de lui-même pour pas que le public se rende compte qu'il est immortel, donc son arrière-grand-père, etc. Donc tu vois, il est quand même super intégré pour le coup à la société, il est attaché, c'est quand même son valet, donc je sais pas à quel point il est attaché, mais voilà, il est bien intégré dedans et on a l'impression que justement lui, il a pas vraiment de superposition là-dessus, quoi. Il grosso modo pour la mission, mais comme il aime bien sa famille, il veut pas aller contre eux. Enfin,
c'est marrant, moi ça m'a pas gêné. J'ai trouvé que il était. Alors je suis pas un super fan du personnage, mais il pense que simplement on ne peut pas sacrifier des milliards d'êtres vivants pour sauver les humains. Mais bon, il va pas non plus. Tu vois, il se met un peu en retrait parce qu'il veut pas se battre contre sa famille. Et donc, c'est genre, on verra ce qui se passe, quoi. Mais il n'a pas une opinion hyper forte sur le truc, mais il se dit, non, moi, je ne veux pas participer à un... Je vous laisse faire, quoi. Je vous laisse voir. Ça ne m'a pas gêné. Mais...
Non, mais voilà. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, voilà, on va dire, à minima un peu léger.
D'accord.
Moi, j'ai quand même globalement aimé tous ces personnages. Il y a eu des conflits quand eux étaient en désaccord. T'avais quand même ce petit sentiment, alors je crois que c'était pas totalement réussi, mais de famille qui se déchire. Ouais. Voilà, je crois que c'était pas forcément complètement réussi. Comme tu le disais, je pense qu'il faudrait que ça soit des personnages qu'on connaisse depuis plus longtemps que ça pour que ça marche vraiment. Mais j'arrivais quand même à voir où ces personnages voulaient en venir et où ça allait. Et voilà, grosse réussite sur les personnages. Puis on peut passer maintenant, du coup, effectivement, au cosmique et au céleste.
On a parlé de la structure du film. Pardon, tu voulais le...
Non, vas-y, revenons sur la structure du film.
Ouais, sur la structure du film, parce que ça touche aussi au cosmique et au céleste. Il y a clairement des trucs où tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Il y a les déviants. Alors, on comprend pourquoi ils sont dans le film, leur utilité scénaristique et dans l'évolution du plot. Mais le déviant qui revient à la fin, qui a évolué, et puis tu te dis, il va se passer un truc avec lui. Non, Téna le découpe en morceaux et c'est au revoir. Il vient, il veut se battre contre les Éternels parce que, d'accord, mais il y a quand même le Célestial qui est en train de sortir du... Peut-être qu'il n'avait pas compris, mais enfin, ça fait bizarre, ça se termine en nœud de boudin. Il y a différents personnages, genre Sprite, elle part avec Icaris, parce qu'elle est amoureuse, mais enfin, d'accord, très bien. Enfin, il y a clairement dans la structure des choses qui sont boiteuses. Je pense que, sur ce point, on sera d'accord. Et on pourrait en parler plus longuement. Enfin, on a évoqué Dane Whitman qui est là. On ne sait pas vraiment pourquoi il est là deux secondes et puis il disparaît. Bref. Mais au niveau du lore de l'univers, j'ai trouvé que la représentation des Celestials était là encore vraiment réussie. Ces entités cosmiques... géantes et la manière dont on les représente dans le film, avec à la fois avant leur arrivée sur Terre, enfin l'arrivée de, comment il s'appelle, Erichem, sur Terre, même ils sont les Célestials sont une fourmi devant leur visage. Et ensuite, quand ils arrivent sur Terre, c'est un truc qui occupe tout l'horizon. Ça fonctionne hyper bien. Et puis, ils disent, nous étions là avant les pierres de l'infinité. Ou les pierres de l'infini. Et du coup, mais c'était au moment du Big Bang ou juste avant le Big Bang qu'elles se sont formées et donc ils étaient là avant le Big Bang. Enfin, tu vois, c'est, ça te fait te poser des questions. Ça étend encore le cadre de l'univers du MCU et de ces trucs Marvel. C'est comme ça que ça se passe. Mais je trouve que ça fonctionne très bien et ça établit tout ça. L'un des rôles importants du film, c'est d'établir le cadre des prochains 5 ans du MCU. Et là, clairement, en sortant du film, tu as... Le truc qui est important pour ces films, c'est qu'en sortant d'un film et que quand tu vas construire dessus ensuite, tu dis « Ah bah oui, je comprends. Bah oui, c'est comme ça. Évidemment qu'il y a des célestials qui sont à l'origine de des étoiles et de la vie et de machin. Bah oui, bien sûr. Donc quand on va t'en reparler dans le prochain Thor ou le prochain Guardians of the Galaxy, bah c'est clair pour toi, t'as compris quoi. Et donc en ce sens, ça fonctionne très bien.
Il y a un truc très particulier que j'ai ressenti avec les célestials et en fait très précisément avec justement, alors j'ai oublié le nom du célestial de terrestre.
Tiamut. C'est Tiamat, Tiamut, c'est mais ça. Ouais.
Qui commence à sortir. Hein, donc je crois qu'il y a un bout de tête et ses doigts qui sortent de la Terre. Ça m'a vraiment rappelé ce que j'avais pu ressentir. Alors je vais passer
dans World of Warcraft.
Exactement. Dans World of Warcraft, il y a un moment donné dans le jeu, je vais expliquer pour ceux qui ne jouent pas à World of Warcraft, on affronte une entité cosmique hein, qui pourrait se rapprocher d'ailleurs des Célestials en termes de taille, en termes de puissance, qui vient essayer de détruire du coup Azeroth, hein, qui est la Terre dans World of Warcraft, et il vient donner un coup d'épée, donc il vient planter une épée dans la Terre, comme ça, juste avant qu'on arrive
une épée géante, hein, une épée qui fait la taille de la planète.
Géante,
hein,
et voilà, une épée géante, mais... exactement. Ouais. Et du coup, cette épée, on la voit quasiment de très très loin, quoi. On la voit quasiment de partout, bon j'exagère, parce que c'est la Terre est ronde, donc forcément, il y a des endroits où on la voit pas, mais voilà, c'est dans le paysage comme ça. Ça a pas forcément. Alors, il y a des conséquences à ça, mais maintenant c'est là quoi. C'est là et c'est là pour toujours. Et voilà, j'ai vraiment ressenti ça et j'espère vraiment que le MCU arrivera à donner cette impression justement de monde persistant là-dessus, où parfois ça sera visible, tu vois, ou. Pour une raison X, Y, ça sera visible dans les films, alors soit il passe à côté, ou tu vois, ou quelqu'un en reparle, etc. Sans forcément que ça ait une importance primordiale, mais que ça a marqué pour moi, ça marque la Terre du MCU, et j'ai envie de sentir que c'est un événement très important, et je pense que ça le sera, mais pour moi, il faut que maintenant ça fasse partie du paysage, et que les humains se demandent mais qu'est-ce que c'est, qu'ils essaient de comprendre, du coup, qu'ils aillent analyser, qu'ils découvrent de quoi est fait un célestial, et tout ça. Quoi.
Elle l'a changé en marbre, donc tu vois, maintenant, il est en théorie, c'est que du marbre, le truc. Mais,
oui, c'est vrai.
Mais ceci dit, moi, je suis assez d'accord avec toi, je trouve que j'ai été surpris qu'ils y aillent, tu vois, qu'ils fassent ça. They went there. Ils l'ont fait. Et le truc, il est juste là. Et je me suis dit, ah ouais, mais donc maintenant, il est ce truc qui sort de terre à moitié. Ça établit la chose. Et je pourrais en parler, mais tu l'as très bien fait. J'ajoute que un des trucs qui est enthousiasmant pour un fan de Marvel, c'est que du coup, ça amène la possibilité de Galactus, mais de manière complètement logique. C'est-à-dire que demain, pour ceux qui ne savent pas, Galactus, c'est pas tout à fait un éternel, un célestial, c'est une des entités de l'univers qui est nécessaire à la vie de l'univers et il dévore des planètes. Bon, je vais vous passer les détails, mais en gros, il ressemble à un célestial. J'imagine que ça sera un célestial ou un célestial corrompu ou un truc du genre dans le MCU, mais s'il arrive demain et qu'il veut bouffer la Terre dans le film des Quatre Fantastiques, parce que traditionnellement, c'est un ennemi des Quatre Fantastiques, ça sera complètement logique. Et cette imagerie d'un être anthropomorphe qui fait la taille de la planète, qui arrive toutes les quelques années, et c'est la merde parce qu'on se dit « Ah bah merde, c'est cette fois-ci qui va nous manger, enfin, non, vite, il faut appeler les Quatre Fantastiques, tu vois ?» Mais juste l'imagerie d'un humanoïde qui fait la taille de la planète, maintenant, bah, ça pose plus aucun problème. Ouais. Donc, ils vont pouvoir faire Galactus sans le transformer en une nuée d'insectes, ou comme on l'a fait par le passé, ou dans certains runs du comics, des comics. Et ça, c'est un accomplissement en soi, tu vois, et je suis très curieux de voir ce que ça va donner à l'avenir.
Oui, parce qu'on a déjà eu Galactus, hein, c'est ça, dans les anciens films catastrophiques.
Ouais, dans les films Fox, oui.
C'est un peu vague pour moi, parce que je ne les ai pas revus.
Bah, c'était la version nuage d'insectes ouais. Ou de trucs, et puis je sais plus s'il l'appelait Galactus, mais c'est genre, il s'appelle Galactus, tu vois, ou un truc dans une langue inconnue. Ils y vont pas à fond, alors que ce qu'ils arrivent à faire dans le MCU, et qui est incroyable, qui est l'une des forces du truc, c'est qu'ils y vont à fond. C'est genre, bah ouais, les Célestials, c'est des machins énormes, tu vois, ils y vont, quoi.
Ouais, effectivement, et ça c'est vraiment un truc, c'est que Galactus typiquement, donc il ressemble à un être humain, hein, c'est juste qu'il est très 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 grand et qu'il a une armure violette, quoi. Tu te dis toujours, bah non, il faudra l'adapter, quoi. Tu peux pas l'importer tel quel. Et effectivement, ce qu'ils ont montré avec les Célestials, tu te dis, ah bah si, ok. Ah oui, d'accord, ok. En fait, on pourrait éventuellement ramener à Galactus à côté de la Terre, ça ressemblerait à ça. Enfin, on pourrait, tu vois. Et ça paraîtrait pas stupide maintenant qu'on a vu les Célestials de voir débarquer Galactus quasiment en l'état de ce qu'il est dans les comics.
Ouais. C'est ça qui est fort. La plus grande force des films Marvel, c'est que ça te fait dire, ah ouais, ok, c'est ça en fait. C'est ça le truc.
Et puis visuellement, tu l'as dit, c'était superbe. Et ça, je pense qu'on l'a pas assez dit, mais globalement, tous les effets de ce film sont superbes.
Incroyable.
Ils sont vachement aidés par le choix d'avoir pris des décors naturels le plus possible. Et tout rentre très bien, quoi. J'avais très peur pour les déviants. Je pense que ça reste, on va dire, le moins bon du lot en termes de. Mais ça reste au-dessus de ce qu'on peut voir ailleurs parfois. Et ouais, c'est tout est super beau, quoi. Et c'est vraiment un plaisir, au moins visuel. Si jamais on n'aime pas trop le film, je pense que visuellement, on est quand même bien servi. Et donc, ouais, on a ces Célestials-là qui posent plein de questions. On a aussi les Éternels qui posent plein de questions, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on a appris que, bah, du coup, Thanos est un Éternel aussi.
Ouais. Alors, Thanos, c'est un Éternel avec un gène déviant, en fait. Mais eux, ils ne le savaient pas, les Éternels.
Voilà, donc, c'est ça.
Ça va, ils n'ont pas intervenu.
On sait que Thanos avait sa planète Titan, où il y avait du coup toute une civilisation d'Éternels. Et du coup, moi, je me pose la question, bah, du coup, est-ce que c'était tous des robots? Est-ce que c'est que ceux-là, ceux qu'on a vus, qui sont des versions faites en série pour la conquête, mais que les Éternels, en tant que race, existent aussi à côté? On a vu qu'ils étaient capables de transformer, donc à la fin du film, ils transforment une des Éternels en humaine. Donc peut-être que ouais, y a quelque chose autour de ça. Donc c'est vrai que ça pose plein de questions. On sait que qu'ils reviendront. Si j'ai bien compris la fin, on va pouvoir parler des scènes post-génériques, je pense. Mais
juste avant ça
revient.
Juste avant ça, j'ajoute en un mot, j'ajoute un mot pour dire l'intégration au MCU. Là encore, c'était hyper casse-gueule, mais je trouve qu'ils le font bien avec, bah, en fait, Nowhere, on le connaît depuis le premier Guardians of the Galaxy. Et puis les trucs qu'ils mentionnent, tu vois, ils disent, ah bah Thor, il me courait après dans les halls de d'Asgard, et maintenant il me répond même plus quand j'appelle. Captain Rogers et Iron Man, ils sont plus là, qui va être le leader des Avengers, machin, tu vois. Et ils parlent du blip, ils parlent du fait que Thanos a retardé l'émergence de Tiamut de 5 ans, enfin tout ça fonctionne sans boîte. Alors si tu veux aller chercher la petite bête, oui, évidemment tu vas trouver des trucs qui sont pas logiques, mais dans l'ensemble, là encore, ils réussissent à faire que tout ça fonctionne. Même le fait que les Éternels aient été là depuis toujours et que bah on les a pas trop vus dans le MCU, ça fonctionne. Je trouve que ça s'emboîte, et c'était là encore très très casse-gueule.
Ouais, mais après il y a des petites facilités, comme tu dis, notamment le fait que bah du coup Amichem vient enlever tous les Éternels.
Michel Michel.
Ils seront pas dans.
Ah, à Richem, oui, d'accord.
à Michel.
Ouais, il y a Michel qui est venu. Ouais,
il y a Michel qui est venu qui a récupéré tous les Eternals et du coup, on sait qu'ils seront pas dans les prochains films parce qu'il y a du coup il y a plus d'Eternals sur Terre.
Bah, on sait pas. Si. Il a pris, en fait, il a récupéré Kingo. Enfin, ceux qui sont partis, c'est.
Sprite. Fastos. Ah, Kingo. Sprite est toujours sur Terre.
Sprite est toujours sur Terre. Kingo, Fastos et Circe, elles sont avec Arishem. Il y a Téna. Ouais, qui d'autre? Téna, Druig et Makari qui sont avec Star Fox maintenant dans leur vaisseau. Oui, mais on peut tout ça. À fait les voir, chacun d'entre eux, je ne sais pas, dans un Guardians of the Galaxy ou dans un, ou dans un Thor 4.
Je pense que le plus logique, ça serait qu'ils croisent les gardiens et que l'équipe des gardiens soit modifiée à terme. Donc, je ne sais pas si ça sera pour le 3. Ou... Enfin, j'imagine que pareil, pour côté Guardians of the Galaxy, on arrive aussi à la fin d'un voyage quelque part parce que ça va faire le troisième film. C'est un peu le rythme qu'on commence à voir pour les autres personnages. Donc, on verra ce qu'il en est. Mais ouais, je suis assez content d'avoir une perspective. En fait, je m'attendais vraiment à ce que ça soit... voilà, les Eternals, voilà comment on a créé l'univers, comment on a créé les humains, pourquoi les Célestials, et puis fin, et puis maintenant qu'on a cette information de mythologie, on peut partir sur la suite du MCU, et je ne m'attendais pas à ce que ces personnages-là soient toujours là, même du coup Icaris ou les autres Eternals qui ne sont plus dans le film, enfin qui sont morts. Vu qu'ils se sont des constructions faites en série, peut-être qu'ils ont d'autres. Enfin, ils peuvent être remis en vie, ils peuvent être remis en service dans une autre version.
On avait l'impression que c'était, ils étaient tous différents, hein, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas refaire un Icaris. D'ailleurs, dans les.
Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ouais.
Dans les comics, ils sont resetés régulièrement. Ils se souviennent un petit peu de ce qui s'est passé. Enfin, on leur raconte ce qui s'est passé, ça les surprend pas, mais ils savent qu'ils sont resetés régulièrement, en fait. Mais
ouais,
oui,
parce
il y a
que
donc...
je me suis dit dans le film, je me suis dit ah c'est des Cylons et c'est pour... du coup je suis resté sur cette idée de potentiellement ils ça existent en pu, plusieurs versions, mais peut-être pas. Ouais.
Mais du coup effectivement si on part sur les perspectives de la première ou deuxième scène post-générique avec Star Fox et Pip, putain ils sont même allés jusqu'à faire Pip, le troll qui d'ailleurs est peut-être le truc le moins bien fait au niveau des effets spéciaux, je l'ai pas trouvé génial, il fait un peu poupée en latex, mais donc on a Star Fox qui arrive, qui est d'ailleurs, je savais pas, mais c'est un chanteur de One Direction, c'est ça?
C'est ça, Harry Styles. Harry Styles, oui.
Je suis pas du tout One Direction, c'était pas mon époque, donc. Mais donc il est Star Fox et c'est encore un lien avec la mythologie grecque, parce que bon, il y a pas de Star Fox dans la mythologie grecque, mais il y a les histoires de Héros et Thanatos et tout ça. Et en plus de, je l'ai même pas mentionné, mais les dieux qui tuent leurs parents, donc les titans, c'est complètement les éternels qui tuent les célestials, enfin bon, bref. Et donc, Eros, c'est le dieu, entre guillemets, de l'amour, qui peut, lui, son pouvoir, c'est qu'il peut faire, il peut donner du plaisir à n'importe qui, et en sa présence en particulier. Et du coup, Thanos, bah, c'est un petit peu basé sur Thanatos, le dieu de la mort, tu vois. Y a plein de choses comme ça qui collent. Mais oui, donc on a cette ouverture sur le futur et le passé du MCU. Moi, je suis aussi hyper content que les personnages, ben, on les ait pas mis au placard et donc on va pouvoir les revoir quelque part. Et du coup, ça met à profit ces 2h30 qu'ils ont passé à nous les présenter, à nous les faire apprécier. C'est vraiment une bonne chose, je trouve, parce que ça aurait été dommage de les perdre. Mais donc, toi, t'as été content de voir cette histoire de Pip et Star Fox à la fin, ou c'était genre un peu, ouais, bon, ok.
Bah, ouais, le frère de Thanos qui débarque. je pensais qu'on en avait fini avec Thanos. Donc, non, pas, sans plus. Après, je connais vraiment pas du tout cette partie-là des comics. Je connais pas les Eternals. Et du coup, bah, j'ai pas d'avis particulier, si ce n'est que bah, c'est la perspective quand même de nouvelles aventures spatiales pour aller revoir les Célestials et tout ça. Donc si, j'étais assez content, mais pas dans la hype totale. Pour Pip, bah, c'est le deuxième personnage un petit peu étrange après Howard the Duck qui arrive dans le MCU. Bon, pourquoi pas. Je suis d'accord, hein, visuellement, c'était un peu bancal, mais bon. Voilà, je sais pas du tout.
À voir pour
penser.
Un film.
Ouais, c'est ça. J'attends de voir ce qu'ils vont faire de tout ça. Je crois que Chloé Zhao était partante a priori pour continuer là-dessus, pour continuer ouais. Les Éternaux. Donc.
Moi, j'espère qu'elle continuera. Tu dis Pip, c'est le deuxième personnage étrange. T'oublies le raton laveur et l'arbre quand même. Hein.
Ouais. c'est vrai qu'ils ont réussi à les rendre tellement pas étranges, enfin tellement naturels que ça passe mieux que Howard the Duck quand même. Ouais. Le troll.
Mais du coup, Pip, c'est dans les comics l'un des gardiens des pierres de l'infini. Donc, et il a un rôle très important avec Adam Warlock. Et donc, ça peut ouvrir des perspectives. Je ne vais pas en dire plus pour ceux qui ne veulent pas savoir, mais ça peut ouvrir des perspectives intéressantes pour le futur, effectivement. Bon, donc ça, c'est la première scène, celle dont on parle en tout cas, la scène post-générique. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On pourrait spéculer pendant des heures, mais l'épisode oui. Est déjà long. La deuxième, c'est donc le fameux très longue et a amené au forceps introduction de Dane Whitman, le Black Knight. Le Black Knight, c'est un personnage du MCU qui est plutôt du côté des... Ah merde, attends. Avant qu'on passe qu'on revienne sur Terre, pour en finir avec l'aspect cosmique, les autres Célestials qui sont récupérés par Arishem pour être jugés, enfin, pour juger la Terre avec leurs souvenirs, leur mémoire. Mm-hmm. D'une part, il y a la perspective d'aller à la forge pour récupérer les souvenirs des vies passées qui peuvent ouvrir plein de trucs qui sont intéressantes, mais aussi la perspective du Living Tribunal, qui est une autre entité cosmique qui juge des choses importantes dans... C'est pas qui va décider si, tu vois, ta sœur t'a volé tes céréales, hein, mais des trucs importants dans le cosmos, et qui est un petit peu sur le niveau des Eternals. Et ça, c'est aussi une perspective intéressante et amusante, ce jugement, cette histoire de jugement. Mais pour revenir ouais. À... Oui, tu voulais ajouter quelque chose.
Oui, j'allais juste aussi dire qu'on n'a pas évoqué très rapidement le Celestial, ce qu'on connaissait déjà, qui était le père de Star-Lord, là.
Ego, bien sûr. Ouais.
Ego, ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça bien que ça soit assez bien intégré, puisque finalement, les graines de Celestial sont les mêmes que celles d'Ego. Et du coup, je trouvais... Alors, au début, je me disais comment ils allaient justement faire le lien entre les deux, et ça fait assez, enfin, il y a assez de logique, quoi, finalement. C'est aussi une planète Ego, donc voilà, tout se passe bien.
Et complètement, voilà. Complètement. Non, mais t'as raison, ça fait partie de l'aspect, on intègre, ça rentre, ça colle, on intègre tout ça avec les trucs précédents du MCU, et cet aspect fonctionne tout à fait. Bref, donc Dane Whitman, c'est un personnage qui est plutôt du côté légende arthurienne, parce que tout est intégré au MCU, évidemment, légende arthurienne des comics, et... Il est donc il a une épée qui s'appelle c'est The Ebony Blade, je crois, qui est une épée qui lui permet d'être très très fort et de tuer des grands méchants, et qui en même temps se nourrit de l'âme des ennemis qu'elle terrasse pour étendre la vie de son porteur, de son utilisateur. Et il a récupéré l'épée de son oncle qui était un type méchant, c'était un vilain, enfin un méchant dans les comics. Et il parle de son oncle dans le film. Et on n'y prête pas vraiment attention, mais Circe lui dit « Ah, tu voulais te rabibocher avec ton oncle, vas-y maintenant, parce que bon, t'auras peut-être plus le temps, pas trop de temps. » Et bref, il veut toucher cette épée, et on entend une voix dans la pièce qui dit « Est-ce que tu es sûr que tu es prêt pour rentrer dans ce monde ou pour cette étape, Monsieur Whitman ?» Et beaucoup de gens ont spéculé sur qui avait cette voix, et je peux dire avec fierté que moi j'avais tout de suite imaginé que c'était Marshala Ali, alias Blade, qui a été annoncé dans le MCU. Blade qui est, alors pour ceux, quand je disais tout est dans l'univers Marvel, Blade c'est un vampire, ils ont commencé à parler des vampires depuis quelques temps, et donc Blade c'est un vampire un peu particulier qui est à moitié vampire, enfin bref voilà, et donc ça serait effectivement Blade qui parle à Dane Whitman, le Black Knight. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène post-générique?
Alors déjà, je connais pas non plus du tout Black Knight, quand j'ai vu, alors je savais grosso modo un gros trait qui était quand même Dane Whitman. Quand j'ai vu l'épée, elle a réagi un peu bizarrement. Moi, ce qui ça m'a vraiment fait penser, et du coup, je connaissais pas les Bonnie Blade hein, à ce moment-là, avant de me renseigner, ça m'a tout de suite fait penser à la Necrosword, qui est mentionnée d'ailleurs dans le film, quand ils sont attablés, je crois qu'ils parlent de la Necrosword.
Ah oui, je me souviens pas de ça.
Et du coup, cette Necrosword, c'est aussi une épée un peu particulière, parce que du coup, elle appartient à un personnage relativement récent, enfin même très récent, hein, dans le MCU, dans les comics, qui est nul, qui est en fait une entité... Qui prédate aussi l'univers et qui est l'ennemi des Célestials. Et qui, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est aussi le créateur des symbiotes. Donc c'est le créateur des Venom, etc. quoi. Et du coup, il a cette épée-là qui, je trouve, qui ressemble vachement, visuellement, c'est à ça que je pourrais m'attendre pour une Necrosword, qui ressemble à une épée symbiote un petit peu. Donc je ne sais pas si les Bonnie Blade a un peu ces caractéristiques-là, mais en tout cas, je pourrais facilement visualiser une espèce de fusion des deux concepts sur l'épée, sachant qu'on a, d'autres choses qui peuvent se rapprocher de Nul qui va arriver. Donc on a eu les Celestials, mais on a aussi du coup le prochain Thor qui va ramener des personnages aussi qui sont proches de ces histoires-là. Donc voilà, donc moi ça m'avait fait penser à ça, puis après en me renseignant, j'ai vu que j'étais peut-être dans l'erreur totale.
Ouais, il y a des gens qui ont évoqué aussi Gore de God Butcher qui a tué un Célestial.
C'est à ça que je pensais.
Ouais. Mmh. Et du coup, bah enfin pour ceux qui sont un peu surpris d'entendre, mais il y a un truc qui était là avant les Célestials machin. Il y a vraiment des niveaux. On vous les épargne parce que ils sont pas dans les films encore, mais il y a 14 niveaux. Au-dessus et plus cosmique que les Célestials dans les comics Marvel. Hein. Donc ça peut aller très très loin, il y a 1000 trucs différents. Mais oui, donc ça peut avoir plein de choses différentes qui sont imbriquées là-dedans aussi. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse...
Coup, effectivement, Blade. Hein. Je savais plus du tout qui c'était. Je me suis dit, attendez, c'est pas Nick Fury quand même.
J'ai pensé aussi, j'avoue. J'ai...
Ouais, 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 on a un peu cherché sur le Discord. On s'est posé la question. Puis heureusement, la réalisatrice a confirmé ce que certains avaient compris, que c'était bien Blade. Et Blade, c'est un des films que j'attends le plus, donc je suis très content que ce soit lui, et j'espère, enfin, j'ai vraiment beaucoup d'attentes hein, pour Blade. Ouais. Donc,
c'est là encore un truc hyper casse-gueule, le fait qu'on se lance sur les vampires, parce que c'est tout un pan de l'univers Marvel qui non seulement n'a jamais été évoqué jusqu'à maintenant, ou genre quelques petites mentions ici ou là pour dire on est en train de le préparer, mais en plus... qui pourrait faire super bizarre, genre qu'est-ce que viennent faire les vampires dans un univers où il y a Iron Man et Captain America, tu vois, ça c'est hyper casse-gueule, donc je suis très curieux de voir comment ils vont faire ça et comment ils vont l'intégrer. Et j'ajoute, peut-être on va finir par conclure sur Eternals, mais j'ajoute que je trouve ça quand même assez courageux et hyper positif qu'il soit pas retourner au tu sais, return to the well, on dit en anglais, tu retournes au puits, et qu'il soit pas retourné au puits des Avengers non-stop après la fin de la phase 3 de Endgame. Ouais. Tu vois qu'ils ouvrent des perspectives sur d'autres trucs, et j'ai l'impression que vraiment le prochain truc qui sera dans l'univers Avengers-ifique, ça sera maintenant, c'est pas que ça va être dans 2 ans, ça sera dans 5 ans, quoi. Enfin, je sais pas quand va arriver Captain America 4, mais on a vraiment tout un programme avant qu'on ne revienne à ce truc. Et du coup, c'est très malin de leur part. Du coup, quand ça va revenir, on va se dire « Oh, c'était le truc qu'on adorait il y a 5 ans ou il y a 10 ans, tu vois. » C'est le truc super ancien,
ouais.
Avec nostalgie et tout. Et en attendant, ils ouvrent des perspectives sur plein de trucs différents. Donc, je trouve ça assez intéressant.
Je pense que c'est vraiment le bon choix, parce que c'est compliqué de garder des acteurs aussi longtemps. Et aujourd'hui, le visage du MCU, c'est encore aujourd'hui Iron Man, Captain America, etc. Mmh. Et je pense que c'est bien d'être dans cette phase où on va découvrir énormément de nouveaux personnages complètement différents. Ça laisse le temps au public d'avoir tous ces nouveaux personnages, et peut-être de découvrir un nouveau fan favorite, quoi, un nouveau personnage où le public tombe amoureux. Je veux dire, Shang-Chi, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé, donc ça va être un personnage qui peuvent utiliser maintenant dans des... dans des trucs de groupe et qui en fasse un argument en lui-même. Et puis voilà.
Les Ten Rings ressemblent beaucoup d'ailleurs hein, à ce qu'ils faisaient les Eternals entre parenthèses, mais bon. Les Ten Rings.
Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, en termes de technologie, tu veux dire.
Ouais.
Ouais, ouais. Et du coup, bah voilà, c'est bien qu'on soit dans cette phase où on va avoir énormément de nouveaux personnages, que ce soit par les séries, par les films. Et voilà. Et du coup, effectivement, je pense que ça sera peut-être pas 5 ans, mais même plus, hein, mais on verra.
Parce que pour le prochain film Avengers, tu veux dire, ouais.
Ouais, c'est ça. Quand on regarde le programme, on arrive à 2024 sans gros film collégial. Donc, je pense qu'on va être un peu patient.
Il y a des trucs quand même. Hein. Il y a Secret Wars en série télé. Et là, j'ai du mal à imaginer où tu... Enfin, ils vont peut-être en prendre certains, mais pas... Ouais, peut-être que tu peux en prendre. Tu peux pas... T'es pas obligé de tous les prendre. Dans Secret Wars, normalement, c'est genre... on prend tous les super-héros du monde de Marvel, on les divise en deux groupes et ils se battent. Et bon, peut-être que là, ils vont faire comme avec Civil War, ils vont pas intégrer tous les personnages du monde Marvel, ils vont en prendre quelques-uns qui sont transportés quelque part par un grand méchant. Mais ouais, et du coup, dans 5 ans ou quand ça sera, quand on aura le prochain Avengers, bah comme dans les comics, le groupe des Avengers, il va être hyper différent. On risque d'avoir un Eternal, un vampire, un mec avec une épée, tu vois, ça va être super bizarre, quoi. Et je pense que vu d'ici, on va se dire... Ah ouais, mais not my Avengers, tu vois, c'est pas ça les vrais Avengers pour moi, mais faut attendre de voir comment on va s'attacher aux personnages, comment ils vont intégrer ça avec la nostalgie des anciens, etc., etc., et je suis curieux de voir ça, quoi.
Ouais, et puis même, enfin, on sait, hein, Iron Man reviendra un jour au cinéma, et pour aussi créer cette envie, cette hype, il faut aussi qu'il soit absent pendant assez longtemps, enfin...
Bah, Iron Man, tu veux dire un personnage Iron Man qui sera pas
alors,
forcément.
Oui, alors oui et non, c'est-à-dire que on peut imaginer qu'un jour ça soit tout ça soit rebooté à nouveau. Enfin, tu vois, je dis que ça finira. Je pense même que de notre vivant, on verra peut-être un autre Tony Stark au cinéma, quoi. Donc, s'il est là tous les ans pendant 20 ans, je pense que ça a moins d'impact quand même. De devoir revenir à nouveau sur le grand écran des personnages comme ça, donc je trouve ça bien que ça tourne, là on va passer dans une phase où les anciens prennent moins d'importance, et peut-être que les anciens qui sont toujours là reviendront sur le devant plus tard, enfin, j'aime bien cette idée qu'on fasse tourner un petit peu, qu'on mette en jachère, comme on dit, ces grosses licences un petit peu, et qu'on reconstruise un peu de l'attente et de la hype là-dessus. Quoi. Ouais.
C'est même la bonne décision, je pense, commercialement parlant, parce que quand tu vois des trucs qui s'effondrent, comme les reboots permanents de certaines séries qui ont été épuisées par la Fox ou Sony, oui, c'est clair que c'est la bonne méthode. Quoi. Très bien, bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de Eternal, hein. Il était temps, on a passé un petit peu de temps là-dessus. Je te propose qu'on couvre du coup rapidement Arcane. On a dit qu'on allait le faire, donc on le fait, même si on est très long, ou pas. Ou est-ce que tu veux qu'on garde
si
ça
on fait,
si on le fait. Ok, on le fait, on y va. Très bien, alors Arcane, la série Netflix basée sur le jeu League of Legends, dont les 3 premiers épisodes ont été rendus disponibles il y a quelques jours. Et j'aimerais que tu me dises, avant toute chose, tes attentes pour la série avant de la voir.
Ok, alors, je déteste League of Legends.
Vraiment. Ça commence bien.
Un truc. J'ai été traumatisé par ce jeu parce que c'est le jeu que tu aimes pas, mais tous tes potes y jouent et du coup, si tu veux passer du temps avec eux, bah tu joues un jeu que tu n'aimes pas et ça augmente, ton voilà, ta haine viscérale.
Ouais.
Voilà. Donc voilà, j'en suis là. Je regarde le travail du coup du studio qui fait le truc hein, depuis quelques temps, donc c'est Fortiche qui sont des Parisiens.
Ouais.
Je les vois faire les clips League of Legends depuis un moment, je suis assez fan déjà de leur taf technique et artistique, je sentais que ça allait sentir bon, quoi. J'étais là, ok, ils font un vrai truc, peu importe le jeu vidéo, les personnages sont cool, ils ont des bonnes attitudes. En plus, il faut noter que je suis assez fan du personnage principal Vi. Ouais, c'est un personnage, c'est le personnage que je jouais quand je jouais en étant du jeu. Je jouais ce personnage-là parce que je la trouvais super cool. Et du coup, bah, on en fait le personnage principal quasiment. J'exagère un peu, mais c'est c'est pas le cas. Et du coup, bah, j'avais quand même une bonne attente. Et je vais quand même dire tout de suite que les attentes ont été explosées et que j'ai vraiment adoré Arkane.
D'accord. On va Je pense pas qu'on ait même besoin de faire une partie spoiler après, mais en tout cas là on va rester sans spoiler. Moi ouais. Mes attentes, elles étaient, tu vois, le niveau zéro. Bah j'étais à peu près pile poil au niveau zéro. J'avais zéro attente. J'ai joué, je crois, 10 minutes dans ma vie à League of Legends. Peut-être j'ai tenté le tutoriel 3 fois et j'ai jamais aimé. Pareil avec les autres jeux, ça me parle pas du tout les jeux de Riot. Et à part peut-être le premier clip de KDA, que j'ai beaucoup aimé, je connais rien du tout de cet univers. Et donc, mes attentes étaient au niveau zéro, comme je disais. Et j'ai été quand même un peu intrigué par les premiers trailers, parce que visuellement, le travail de Fortiche est déjà, à la base, incroyable. Incroyable, le travail de Fortiche sur cette série. Alors, en général, j'avais été ébloui par le premier clip du groupe KDA, le groupe qui est basé sur des personnages de League of Legends. Mais sur le clip, il était vraiment éblouissant. Mais là, sur la série, le rendu qu'ils font est complètement... J'ai du mal à trouver les mots pour le décrire, en fait. C'est de la 3D, c'est clairement de la 3D, mais chaque trame de la vidéo, si on la met en pause, on a l'impression d'avoir une sorte de peinture, d'artwork à la tablette, en fait. D'artwork à la tablette graphique. Et ça rend incroyablement bien. Je trouve que ce choix et cette direction artistique sont une réussite absolument totale. Donc ça, j'étais, on va dire, intrigué avant de commencer à voir la série. Et en ayant vu... Alors, j'ai vu le premier épisode, je me suis dit « Ah ouais, ok, sympa, bon, il faut que je vois les deux suivants quand même, parce que faut que je sache de quoi il s'agit. » Et au sortir du troisième, j'étais, là encore, ébloui. Je pense que c'est potentiellement, je crois que c'est la meilleure adaptation de jeux vidéo en série ou au cinéma que j'ai vu de ma vie. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien réussi, quoi.
Et oui, et puis, enfin, comme tu l'as dit, hein, techniquement, c'est vraiment incroyable. C'est assez, en plus, c'est vraiment notable qu'on sort du What If de Marvel.
Ouais, qui était déjà
d'ailleurs
bon,
la même technique, hein, qui a la même un peu technique 3D avec des couleurs qui rappellent un peu plutôt de la 2D, et du coup ça, je trouve que ça rend bien cette technique là mais alors c'est sublimé complètement par Fortiche sur Arkane. Pour moi, ça va être dur de regarder des trucs maintenant en dessous, enfin c'est visuellement c'est vraiment je suis rarement fan de l'animation quand elle est pas japonaise. C'est une difficulté en plus, et là ça s'est vraiment envolé. J'ai trouvé ça, enfin je l'ai regardé 3 fois, hein, la série déjà. Moi je suis vraiment devenu super fan. Et puis au-delà de la technique, je trouve que l'histoire, les personnages sont tous géniaux, les jeux d'acteurs sont au top. Et puis voilà, ce qui se passe dans ce troisième épisode, je pense que si on continue dans cette lignée-là, on part pour une des séries animées les plus importantes de la décennie facilement. Enfin, je veux dire, j'espère que ça va marquer les gens autant que ça me marque moi, mais j'ai vraiment hâte de voir la suite, quoi. J'ai vraiment envie de voir évoluer ces personnages-là. Alors, je reconnais chaque personnage qui sont dans le jeu, parce que je les ai quand même un peu tous vus, soit en jeu, soit voilà, à force de traîner sur les news, etc. Et du coup, je vois à peu près vers où vont ces personnages en termes d'attitude, en termes de personnalité et de pouvoir, etc. Mais ouais, j'ai vraiment envie de voir la suite. Et en plus, ça me donne envie de jouer à des trucs en rapport, quoi. Mais j'aime pas les jeux. Comment on fait, Patrick?
Ils ont fait très fort parce qu'ils ont sorti des updates à différents jeux avec les personnages. Ben ouais. Évidemment, c'est bien coordonné au niveau marketing. Mais je veux ajouter le fait que graphiquement, effectivement, c'est éblouissant, mais comme tu l'as dit, c'est l'écriture qui fait que la série est bonne. Enfin, c'est les deux et, en même temps, mais je pense beaucoup à une série comme Castlevania, qui a pris, on va dire, les personnages de Castlevania et qui a fait un truc complètement différent avec. Alors, on retrouve certains éléments, mais vraiment, on aurait eu du mal à imaginer une histoire comme ça en se basant uniquement sur les jeux, je trouve. Oui, il y a beaucoup d'éléments, mais bon. Là, j'ai l'impression qu'on reprend quand même effectivement ces éléments-là, mais qu'ils se sont dit, alors on va écrire une bonne histoire et on va la structurer. Alors on ne sait pas exactement de quoi sera fait, de quoi seront faits les 6 épisodes à venir, mais on a l'impression que c'est 3 arcs différents et que chaque arc, donc les 3 premiers épisodes, c'est un arc, est une histoire en soi. Et c'est vraiment fort parce que on a une histoire qui a un début, un milieu, une fin, qui se termine, qui a des enjeux énorme, enfin des enjeux énormes, c'est pas ça, mais qui a des enjeux narratifs pour les personnages qui sont vraiment importants. Et moi, ne connaissant pas les personnages, je savais pas où ça allait. On pouvait imaginer un petit peu plus ou moins, mais c'est les comment dire, la charge émotionnelle, et ils ont pas peur d'y aller. C'est un peu comme, tu vois, les Eternals avec le truc qui se passe à la fin. Tu dis, ils n'ont pas peur d'y aller. Je ne veux pas spoiler pour le cas où les gens ont sauté la partie spoiler d'Eternals. Mais là, ils n'ont pas peur d'y aller. Et tu dis, et quand tu finis l'épisode, le 3e épisode d'Arcane, encore une fois, sans spoiler, tu es investi. Tu dis, là, je veux savoir ce qui se passe avec ces personnages. Et on peut tout à fait imaginer que l'arc suivant, comme il réussit en fait en série ce que Eternals rate, encore une fois sans spoiler, mais ça va trop vite dans Eternals. Donc, t'es pas investi. Là, ils prennent le temps, on a l'impression, alors c'est pas forcément plus long, mais ils prennent le temps de s'apesantir sur les enjeux et les relations entre les personnages. Et tu as hâte de les retrouver pour la suite, et moi j'en avais vraiment rien à faire, et à la fin de la troisième, du troisième épisode, j'ai vraiment hâte, quand la deuxième partie va arriver dans quelques jours, je vais me précipiter dessus pour savoir ce qui se passe avec ces personnages en fait. Donc je suis très très impatient, et j'aurais jamais pensé que ça m'aurait autant capturé quoi.
Ouais, ça, c'est en train de vraiment de... Là ça fait des années que Riot parle de son MMO. Je pense que c'est mon espoir pour rentrer dans l'univers côté jeux vidéo. Ça va être probablement le MMO qui arrivera. Mais ouais, ces personnages, j'ai envie de... Voilà, moi, je veux un League of Legends de Cinematic Universe. Maintenant, je veux des films, je veux des séries, je veux tout.
Bon, alors, il faut quand même mettre un tout petit astérisque. Il n'y a eu que 3 épisodes, hein. Ça se trouve, les 3 suivants seront lamentables, ça va te faire retomber ta hype complètement. Ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin, hein, mais c'est possible.
Mais c'est ça, c'est osé, ils y vont comme tu dis, et ça donne quand même de bons espoirs sur la suite et sur ce qu'ils veulent en faire. Quoi. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est ça, c'est que... Riot essaye de passer en multimédia, en cross-média, et ils ont pris du temps pour le faire. Donc, il y a déjà des comics, ce genre de choses-là. Mais du coup, l'arrivée à la télé, c'est une étape importante d'un point de vue public. Parce que du coup, là, Netflix, c'est un très, très large public. On fait pas de bonnes... On n'a pas plusieurs opportunités de faire des bonnes impressions. Et on sent vraiment qu'ils sont allés vraiment avec un sérieux vraiment exemplaire. En se disant, il faut vraiment marquer les gens. Et je pense qu'ils sont en train de réussir ça, quoi. On verra les retours. Hein. Pour l'instant, il n'y a que mon retour à moi qui suis surexcité. Mais peut-être que les gens n'aiment pas du tout. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour que ça marque les gens et pour que potentiellement League of Legends devienne un univers cinématographique, donc de séries télé, qui se tiennent seuls, quoi, et qui soient suffisamment importants pour attirer vraiment un très large public à venir essayer les jeux, ce genre de choses-là, quoi. Donc je pense qu'ils sont en train de réussir ça, et c'est pas évident parce qu'on a d'autres exemples de ce type, hein, où c'est assez mitigé. Et voilà, je suis très impressionné par ce qu'a pu faire Fortiche et par les moyens qu'on leur a donné pour le faire, quoi.
Bon, c'est sûr que Riot manque pas de moyens, hein. League of Legends, c'est quand même l'un des plus gros jeux au monde, si ce n'est le plus gros jeu au monde. Je pense qu'ils ont de quoi mettre quelques sous sur la production. Mais clairement, ce qui marque, c'est le soin qu'ils ont apporté à tous les éléments de la série. Je ne sais pas depuis combien de temps ils bossent dessus, mais à la limite, ça importe assez peu. Le soin qu'ils ont apporté est exemplaire. Tous les éléments sont hyper ciselés. Et c'est d'autant plus marquant qu'on vient d'avoir la série Dota, qui est sortie il y a quoi, 2 mois sur Netflix, Dragon Blood, Dragon quelque chose, je ne sais même plus.
Ah, c'est sorti ? Je ne savais même pas.
Ah bah,
c'était sorti,
voilà. Écoute, voilà. c'est marrant, mais c'est pas mauvais, hein. C'est même plutôt bon, je dirais, c'est pas mal, mais c'est tellement plus classique que, tu vois, tu as un grand chevalier, et puis il y a des histoires de dragons, et ils doivent s'échapper, ils se font poursuivre, et machin, ok, bon, c'est, t'aurais pu l'écrire, tu vois, c'est, tu aurais, c'est, comment dire, Generic Fantasy Story 1.0, quoi, c'est ça, .jpg.txt, quoi, c'est exactement ça, et c'est pas mauvais, mais, bon, c'est un truc que tu attends. Là, on est à l'opposé de tout ça et c'est fait avec un soin qui se ressent dans chaque trame de la série, quoi. Donc
voilà. Pour finir de donner envie à ceux qui seraient... Qui
ah bah là, s'ils n'ont pas envie, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Voilà. Hein.
Mais... Les 3 premiers épisodes, en tout, ça doit faire 2 heures, je pense. Ça doit faire 2 heures, peut-être au maximum. Et ça se regarde comme un film. C'est un seul arc. Ça pourrait se finir là. Donc, limite, à la fin de ces 3, si vous en avez eu assez, bah, vous pouvez arrêter. Mais spoiler, vous n'arrêterez pas parce que c'est trop bien. mais voilà, vous pouvez y aller déjà avec ces 3 épisodes, ça se regarde comme un film. Ils vont sortir 3 par 3 chaque semaine, donc ça fera comme un mini-film, comme un film chaque semaine. Ça fera une trilogie à la fin, et je pense, hein, en tout cas, c'est comme ça que je comprends la structure du truc. Allez-y, quoi.
Complètement. Bah écoute, peut-être qu'on reparlera quand la série sera finie ou même, je sais pas, au prochain épisode.
La prochaine, on dira, oh là là, c'est nul. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Mais ce deuxième arc, c'est honteux.
Oh là là.
Bah on en reparlera peut-être, on en dira un petit mot. Ouais. Et bah du coup, là, on va se quitter pour 2 semaines, mais on revient dès la fin novembre, puisque c'est quand? C'est le 23 ou le 24 que la série Hawkeye commence? Je sais plus.
Ouais, c'est le 24, je crois.
Le 24, ouais. Le 24, il y aura 2 épisodes de Hawkeye qu'on aura vus. Et donc, j'espère que le vendredi 26, peut-être, si tu es disponible, on pourra, et s'il n'y a pas de problème, on pourra vous livrer nos impressions sans et avec spoiler sur Hawkeye. Merci beaucoup pour cet épisode extra large où on a pu longuement parler de Eternals, mais pas que. Avant de se quitter, bien sûr, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, Johan? Dis-nous tout.
Eh ben, on peut me retrouver principalement sur Twitter, à JohanT_. Et venez nombreux, parlez-moi de choses.
Tu n'attends que ça.
Je répondrai avec plaisir. Et puis on va arriver dans la semaine d'Elden Ring pour moi. Donc je vais peut-être
tu donneras toutes tes impressions.
Parler d'autres choses que d'Arkane, mais voilà.
Ça marche. Pour ma part, c'est NotePatrick sur tous les réseaux sociaux et sur notepatrick.com. Vous retrouvez tous les liens vers tout ce qu'on fait, y compris le Discord. Venez sur le Discord, parlez avec nous de tous les épisodes de Super Laser Punch qu'on fait et de tous ces sujets. On a très hâte de vous avoir. Et je fais en plus le rendez-vous tech où je parle d'actu tech et le rendez-vous jeu où je parle d'actu gaming, en podcast bien sûr, le mardi et le jeudi respectivement, mais aussi sur Twitch en live. Donc si vous voulez participer à l'émission, enfin nous rejoindre à ce moment-là, c'est un bon moment, passer ensemble, on s'amuse bien. Donc vous pouvez retrouver tous les liens sur notepatrick.com. Spoiler, c'est notepatrick partout, hein, donc c'est assez simple. On vous fait de grosses bises, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines pour un nouveau Super Laser Punch. Ciao à tous.
Ciao.